explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora les Vainés, tu connais ?
Mais croyez-vous que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
Cet été, tous les vendredis, nous vous proposerons de réentendre quelques rencontres qui nous ont marquées lors des saisons précédentes. Pour ouvrir cette sélection, nous allons revenir sur deux bivouacs particulièrement sonores. Nous retrouverons d'abord Boris Jolivet, bioacousticien, spécialisé dans les sons de nature, du tapotement d'une araignée sur sa toile au rugissement d'un lion en passant par le bruit organique d'un lac gelé. L'insatiable preneur de sons s'emploie à saisir la vie et les dimensions inattendues de notre monde sonore partout où il passe. Puis nous réentendrons les sifflotements de Jean Boucaud et Johnny Rass, qui nous avaient bluffés. Ils se présentent comme des chanteurs d'oiseaux, profession qu'ils ont inventée. Ils reproduisent à la perfection le chant des oiseaux, un don et une passion d'enfance qui a mûri à l'écoute des volatiles de la baie de Somme. Autre nouveauté, tous les vendredis, en deuxième heure, le temps d'un bivouac cédera la parole à Anne Pastor pour une série de reportages intitulée « Voyage en terre indigène, une histoire oubliée des peuples francophones ». Aujourd'hui à 17h, Anne s'intéressera aux zoos humains d'hier à aujourd'hui chez les Pygmées en Belgique et au Cameroun. Mais pour commencer, fermez les yeux et ouvrez grand les oreilles. Le bioacousticien Boris Jolivet vous emmène en balade. Écoutez les bruissements et les rugissements du monde.
J'ai entendu un arbre tomber, mais il n'y avait pas de vent. On n'était pas en train de l'abattre. Donc il y a eu comme des plaintes. Et je l'ai entendu tomber. Enfin, ça me fait mal quelque part. Ouais, sincèrement. Ouais, je sais pas, ça met tellement de temps à pousser, tu te dis que...
C'est vous, Boris Jolivet, qui avez enregistré la chute de cet arbre qui s'effondre dans un bruit déchirant. C'est vrai qu'il a quelque chose d'émouvant, ce son que vous avez capté en forêt.
Oui, tout à fait. Et comme dit c'est Carole, une gestionnaire de l'ONF que j'ai interviewée, ça fait mal d'entendre un arbre. On entend les plaintes, on l'entend... Et ça met tant de temps à pousser. Je trouve que ce qu'elle dit, elle résume vraiment ce moment intense et triste quelque part.
Ouais. Dans quel temps, à quel moment vous l'avez enregistré ? C'est un hasard ? Vous étiez en forêt et puis cet arbre est tombé ? Parce qu'on sent, il n'y a pas de tronçonneuse qui attaque l'arbre.
Parce que justement, comme elle le dit, elle passe son temps en forêt, elle est gestionnaire, donc elle gère les forêts et elle travaille avec des bûcherons. Et elle a entendu dans sa vie une seule fois un arbre tomber comme ça au hasard. Hein, c'est ce qu'elle raconte. Mmh. Moi, du coup, j'ai travaillé, elle m'a mis en contact avec des bûcherons. Hein, et donc, ils ont arrêté la tronçonneuse à temps pour que je puisse avoir ce moment, parce que c'est vraiment, ça serait vraiment un gros hasard d'être là à ce moment-là.
Oui.
Voilà. Et puis, c'est un travail, ça, que j'ai fait en multicanal, en 5.1. Donc, je voulais vraiment une belle prise de cette fibre qui craque.
Alors, vous enregistrez très souvent en forêt ou lors de vos voyages des animaux. À chaque fois, ce sont des rencontres. Ce n'est pas une espèce, mais un individu précisément que je rencontre et que j'enregistre.
Bien sûr, parce qu'à chaque fois, pour rester déjà longtemps, pour réussir à capter le phrasé, la mélodie et la griffe musicienne, d'où son nom d'ailleurs, elle l'est vraiment quand on l'écoute attentivement. Et chaque individu, comme nous, a sa propre voix. Donc effectivement, à chaque animal, c'est une rencontre.
Ouais, alors partons à la découverte de quelques belles rencontres que vous avez effectuées. Justement, ils chantent tous sur une note différente et c'est très harmonieux. Quel est l'animal qui produit ce chant? C'est très mélodieux. On a vraiment l'impression d'être à un concert, là, d'entendre un instrument de musique.
On a une petite mélodie, là, hein, ouais. Vraiment. Hein. Donc, comme vous l'avez dit, chaque animal produit une note, seulement une, qui va répéter comme ça. Mais le fait qu'il y en ait plusieurs, ça crée cette petite mélodie. En fait, c'est un petit crapaud. Donc, peu de personnes imaginent que les crapauds peuvent produire ce son. Et c'est un son assez courant qu'on entend en ce moment, d'ailleurs en plein été, dans les parcs, dans les jardins, où il y a un point d'eau pas loin. Donc, c'est le crapaud accoucheur, l'alite accoucheur.
Allez, je voudrais vous en faire écouter un autre. On ne va là encore pas dire tout de suite de quoi il s'agit. Si un seul de nos auditeurs devine, franchement, il est très fort. À
Alors, il a quelque chose de très humain, hein, ce son. On a l'impression d'entendre les premiers gémissements d'un nourrisson.
Exactement, et je l'utilise beaucoup pour parler du son et de la nature aux enfants, en expliquant que les mammifères, nous sommes des mammifères. Voilà. Donc, c'est un petit mammifère qui ressemble à vraiment un bébé humain. Et ce sont des bébés castors. Et là, c'est l'appel du bébé pour avoir la tétée. Et si on attend un petit peu, on va entendre la tétée, hein, vraiment la succion du bébé castor.
Ça y est.
Voilà.
On vient d'avoir la succion. Mais alors, pour capter un tel son, vous n'avez pas été branché un micro-cravate au castor. Comment vous réussissez? C'est précis, c'est minutieux, hein, la tétée d'un castor.
Là, je dirais que j'ai eu pas mal de chance. Bon, j'ai travaillé sur un documentaire pour un réalisateur qui s'appelle Nicolas Gruau. Donc, j'ai passé beaucoup de temps en bivouac sur une île où il y avait ce terrier, un terrier hutte. Hein, donc, la femelle creuse et puis ensuite, elle va construire le toit en branchage. Et celui-ci était assez aéré. On pouvait, la journée, voir au travers. Donc, il était plutôt mal fait, finalement. Mais grâce à ça, j'ai pu placer, donc, la nuit, quand la femelle était absente, mes micros au-dessus. Bien sûr, il était hors de question d'aller introduire un microphone dans le nid. Hein. Il faut surtout pas déranger des nids ou des terriers comme ça pour pas perturber les jeunes. Voilà. Et donc j'ai placé ça quand la femelle était partie la nuit, au-dessus. Surtout pas touché. J'ai fait attention, tendu des câbles et je me suis mis dans mon duvet. J'ai attendu le lendemain matin que la femelle revienne. Et c'est cette séquence qu'on vient d'entendre. Donc le retour de la femelle et forcément le petit a faim. Et on entend ces plaintes.
Vous attendez avec un casque à distance, vous pouvez un peu espionner cette femelle castor.
Ah, exactement, là j'espionne. Donc là, je somnole, mais avec un casque, donc je dors d'une oreille. Et dès que j'entends un bruit, c'est vrai que je suis quand même en attente. Donc dès qu'il y a un petit bruit, un petit mouvement, voilà, je suis prêt, j'écoute. Et donc là, je l'ai vraiment entendu, les petits bruits d'eau, puisque l'entrée du terrier passe par l'eau. Elle est obligée de passer dans l'eau et après, elle arrive dans le terrier et on l'entend qui s'ébroue et qui arrive. Et le petit a très faim à ce moment-là, puisque elle est partie toute la nuit.
Mmh. Un autre son qui a quelque chose de très humain, mais plus comique. Ouais, on a l'impression un peu d'un jeune énervé qui appelle son pote, là. C'est qui?
Ça, c'est le lynx. Alors là, c'est vrai que ça fait rire un petit peu. On dirait un peu un humain aussi, effectivement, hein, qui appelle les enfants quand je leur fais écouter. Je rigole assez souvent. Mais c'est quand même le feulement de notre grand prédateur, l'un des grands prédateurs aujourd'hui en France, le lynx, que j'ai eu beaucoup de mal à capter quand même. J'ai mis plusieurs mois pour réussir à voir cet appel, hein, puisque le lynx a un énorme territoire. J'ai beaucoup travaillé sur cet animal dans le Jura. Et donc là, on est au mois de mars. Il a repéré une femelle à l'odeur et là, il l'appelle. Donc c'est son cri de rut. C'est vraiment caractéristique du lynx et c'est plutôt rare à entendre quand même.
Alors vous le dites, j'ai beaucoup travaillé. C'est-à-dire que comment ça se passe? Vous partez en forêt en vous disant aujourd'hui, c'est le lynx, c'est le cri du lynx que je cherche. Vous avez une liste de sons qui vous intéressent et puis un peu opportunément, vous voyez ce qui arrive.
Alors pour le lynx, se dire aujourd'hui j'ai enregistré le lynx, c'est pas possible, ouais. Parce que c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, difficile. Ouais. Par contre, il y a une période, c'est-à-dire début mars, où c'est une période de 15 jours à peu près, où on a peut-être une chance d'avoir ce cri. Donc effectivement, il faut être pendant 15 jours, tous les soirs, au coucher du soleil, à l'écoute, en espérant qu'il soit pas loin. Voilà. Et sinon, par rapport à votre question, ça va dépendre. Il y a des moments où je vais aller un petit peu au hasard. Mais quand même, en général, avec l'expérience, le temps, je vais repérer, passer du temps pour aller chercher quelque chose que j'ai envie d'avoir ou que j'ai besoin d'avoir pour un projet.
Quel est ce parfum que le vent dépêche? On dirait que la chair brûle. Viens, suis-moi. Comme un endroit où l'herbe est encore fraîche. Empruntons ce chemin, dis adieu à la ville. Je t'attends, prends ma main. Cesse donc de jouer là-dessous. La lave aura bientôt recouvert nos maisons. Je t'en prie, allons-en. Mon cœur est un pendule. Mon cœur bat dans tes bras. Je ne fais que t'attendre. Mon cœur sous le ciel noir de cendre. Oh, Ginger, la montagne vacille. Oh, Ginger, allons-nous-en d'ici. cours, enfin cours, allez, vas-y. On dirait que l'enfer entier est à notre route. La lave s'avance, mais je crois en la chance de rejoindre la mer. Elle est là, quelque part, non, ne te retourne pas. Rien, vite, suis-moi mon cœur. Les chiens sont à nos talons, mais la jetée n'est plus loin. Oh, Ginger, le sol sous nous vacille. Mais Ginger, un grand bateau se dessine là-bas. Mon cœur, l'espoir nous fait un signe. Ginger, nous serons loin d'ici dans une heure. Si tu le veux, sauve-toi. Allez, vas-y.
C'était Feu Chatterton avec Ginger sur France Inter.
Position.
Parc national de Boubandija, à la frontière du Tchad et du Cameroun.
Notre invité Boris Jolivet est audio-naturaliste. Alors vous avez beaucoup voyagé à l'étranger, hein, des destinations marquantes. Alors le Jura, c'est pas l'étranger, mais là vous êtes fan. Il y a Shetland, l'Inde, la Turquie et puis l'Afrique. Là nous sommes au Cameroun, je crois, à la frontière entre le Cameroun
et
le Tchad. Mm-hmm. Et on entend, c'est un peu un mixage avec à la fois des sons plus animaux qu'on a derrière. C'est un voyage qui vous a marqué. Pour quelle raison l'Afrique ?
Ah, j'ai vraiment été surpris sur le fait qu'il y ait vraiment rien, quoi. Voilà, j'ai voyagé en Asie, j'ai vu en Inde, mais vraiment dans les villages africains, j'ai été surpris par le niveau de vie des gens et la façon dont ils vivent. C'est vraiment très rustique et difficile, je trouve, hein, quand il faut aller chercher l'eau, faire 2 kilomètres à pied pour aller chercher de l'eau, pour nourrir la famille, pour abreuver, pour nourrir la famille. Enfin, vraiment une vie difficile, j'ai été marqué par ça. Mais en même temps, une joie de vivre des gens.
Ouais. Et là, votre mission, si je peux le dire comme ça, c'était de faire la bande-son d'un documentaire. Et on n'a pas forcément ça en tête, mais lorsque l'on voit un documentaire animalier, les images que l'on voit et le son que l'on entend n'ont pas forcément été pris en même temps. C'est un travail, un métier à part entière que de prendre la bande-son du documentaire animalier que l'on regarde.
Animalier, voilà. Parce que dans ce documentaire, il y a une partie villageois. Donc là, évidemment, on est en synchro, comme un documentaire classique, c'est-à-dire qu'on enregistre en même temps que le caméraman tourne. Mais pour l'animalier, effectivement, on a du mal à être
tous les deux au même endroit. Déjà, on n'a pas nécessairement besoin d'être au même endroit. Le caméraman a des zooms, il peut se placer à un endroit et on va se gêner. Lui va me déranger, il va faire du bruit. Bref, on travaille souvent en décalé ou à distance. Et effectivement, après, il va falloir recaler tous les sons pour recréer cette ambiance et être le plus respectueux de la réalité. Ça, c'est très important.
Le caméraman a des zooms. Est-ce que le preneur de son aussi a des zooms?
On a des zooms. On a surtout, en animalier, on utilise une parabole. C'est-à-dire, donc c'est effectivement un zoom, hein, c'est très directif et on va pouvoir isoler et quand même amplifier le son que l'on va viser. Mais il y a une contrainte, c'est que en qualité, ça peut ne pas être très satisfaisant. Donc ça va être bien pour des oiseaux, quelques espèces particulières, mais voilà. Moi j'aime la qualité, l'acoustique, donc je préfère travailler au couple. Et du coup, on n'a pas vraiment de zoom.
Et alors dans ce safari sonore dans lequel vous vous êtes lancé en Afrique, quels étaient les sons, les cris de bêtes que vous traquiez?
Alors là, on a fait au niveau animalier pas mal d'affûts, au sol. Ou affût perché, hein, puisqu'il y a quand même des prédateurs, c'est la nuit, voilà, donc il fallait faire attention, à respecter, il y a des règles à respecter. On a beaucoup traqué tout ce qui est antilope, gazelle, on cherchait essentiellement ces animaux-là, et puis bien sûr les grands prédateurs, comme la panthère, le lion, on espérait rencontrer ça.
Vous êtes fait des frayeurs?
Et beaucoup les éléphants. Ça, le réalisateur voulait à tout prix une scène avec les éléphants que l'on peut approcher.
Mmh. Vous vous êtes fait des frayeurs en partant justement cette faune sauvage qui à la fois fascine, mais c'est peut-être la plus effrayante, le lion. Quand on se dit, il faut que j'aille enregistrer le rugissement d'un lion.
Le lion, effectivement, j'ai eu une belle frayeur. Hein, mais finalement, le lion est quand même moins dangereux que l'éléphant. Voilà, quand on est en approche sur des éléphants, il faut être très méfiant parce qu'ils vont charger. Voilà.
Mmh. Alors on va écouter le lion. Hein. On revient. Alors on vous sent proche. Hein. On a presque l'impression que son souffle pourrait nous atteindre. Vous étiez à combien de mètres de ce lion?
Là, il était environ à 10-15 mètres derrière moi. Et je ne l'avais pas vu. Donc là, j'ai eu une bonne frayeur.
Donc vous le cherchiez, et en fait, lui, il vous avait trouvé bien avant que vous le repériez.
Exactement, voilà, on l'a cherché. Et en fait, ce son-là qu'on entend, c'est son appel, c'est comme ça qu'il marque son territoire. Donc tous les soirs, au coucher du soleil, on entend les lions comme ça, hein, pour dire, voilà, je suis là, ici c'est chez moi, et je suis toujours bien là, je suis bien vivant. Donc ils se répondent comme ça, et j'entendais ce son tous les soirs, mais assez lointain. J'ai pas eu la chance de l'avoir assez près. Et j'avais repéré un appât qui servait autrefois à chasser les lions, hein, chez les Africains. C'est un grand cône qui fait plus de 2 mètres en métal avec de la peau de bête autour. Et je lui ai demandé s'il pouvait venir avec moi pour essayer d'appeler le lion et de l'avoir plus près, d'avoir un bel enregistrement. Donc c'est ce qu'on a fait, on l'a appelé. Il a répondu tout de suite, à une centaine de mètres. Puis après, plus rien. Il l'a rappelé une fois, deux fois, trois fois. Puis on a arrêté. Quand soudain, il y a eu ce son qui était juste derrière nous. On ne l'avait pas vu arriver. Quoi. On cherchait évidemment avec une lumière, on cherche des yeux. On est très vigilant quand même, parce qu'on le titille un petit peu ce lion à ce moment-là. Et il était juste derrière moi, debout. Et là, on s'est retourné, le palpitant va très vite à ce moment-là.
Et dans ces cas-là, on pense encore à son enregistrement ou on pense à sauver sa peau quand on se rend compte qu'on est à 10 mètres d'un lion?
J'avais quand même pas mal d'informations sur le comportement à avoir face à un lion. Donc là, en l'occurrence, j'étais dos à un lion. Oui. Donc c'était justement tout de suite se retourner. Il faut lui faire face, surtout pas courir, ne pas avoir un mouvement de proie en fait. Hein. Et donc là, je voulais à tout prix avoir la fin de cette belle phrase. Et après, on a vite reculé, on recule face à lui et on s'est réfugié dans le véhicule qui n'était pas très loin.
Et vous nous l'avez dit, hein, les animaux qui font plus peur encore que les lions, ce sont eux. Donc des éléphants, pourquoi ce sont les éléphants dont il faut le plus se méfier finalement?
Parce qu'ils sont en famille, toujours, en groupe. Il y a les petits, ils voient très mal, donc ils se méfient et en fait ils nous repèrent à l'odeur. Et en savane, le vent tourne facilement, donc on peut approcher facilement, parce qu'on use justement de leur mauvaise vue pour les approcher. Donc on peut les approcher jusqu'à 30 mètres, 25 mètres. Sans qu'ils nous voient, en étant très silencieux. Mais il suffit que soudain le vent tourne un petit peu, là on voit les trompes qui se redressent comme un périscope, qui s'orientent toutes vers nous. Et là, forcément, ils envoient les deux plus balèzes, ou les deux ou trois plus costauds, les deux mâles, les oreilles battantes, et là, ils viennent vers nous, et là, c'est vraiment un avertissement. Il faut partir plutôt assez vite, parce qu'ils peuvent charger.
Ça charge.
Il y a plus d'accidents, finalement, avec des éléphants qu'on croit sympathiques, qu'avec des lions.
Après avoir écouté les plus gros animaux terrestres, on change d'échelle. Musique du film Microcosmos, on pénètre un monde moins familier, avec des sons moins connus. C'est un peu un clin d'œil parce que je crois que vous êtes très admiratif du travail qui a été fait sur ce film Microcosmos où l'on voit des insectes à leur échelle.
Ah oui, vous savez ça?
Oui.
Oui, c'est tout à fait. Oui, c'est un film qui m'a marqué au niveau déjà de sa sortie au cinéma. Un film sur ce sujet, c'était étonnant. Ça a cartonné. Et au niveau son, le travail de Philippe Barbeau, que je connais un petit peu, hein, qui fait le même travail que moi au niveau cinéma, est vraiment très très beau. Et il y a ce que j'aime beaucoup dans ce film au niveau sonore, c'est aussi ce mélange entre le son et la musique. Et voilà, c'est très poétique, c'est très beau.
Alors d'ailleurs, votre vocation, elle vient aussi d'un insecte, une petite vrillette. Racontez-nous, c'était... Alors là, on remonte à votre enfance, dans votre chambre.
À mon enfance, tout à fait, dans ma chambre où il y avait des poutres, hein, une toiture, une charpente en poutres, et où j'entendais, au mois d'avril, une année comme ça, des petits tapotements très réguliers qui m'intriguaient vraiment.
On va les entendre.
Exactement ça.
Ça, c'est un petit insecte qui parvient à faire autant de bruit, on dirait presque un pivert. Là.
Alors en fait, c'est des tapotements, donc c'est plus faible que ça. Là, on est collé à lui.
Ah,
c'est
oui.
Très faible. Mais la nuit, dans une chambre, on l'entend. C'est très rythmé, on l'appelle l'horloge de la mort.
On dirait des claquements de dents un peu.
Et en fait, c'est la grosse ouvriette, c'est un petit coléoptère de 3 mm, 3-4 mm, qui tape avec sa tête. Et quand j'ai réussi à le trouver, moi j'ai mis un petit moment, hein, que je suis tombé dessus, j'étais vraiment impressionné. Par cette petite bête qui se donne autant de mal à produire du son. Et c'est exactement comme vous avez dit, c'est comme le pivert qui tambourine, ce n'est pas pour chercher à manger ou pour creuser, c'est pour se faire entendre par une femelle, pour trouver une femelle, une compagne, pour se reproduire.
Et alors évidemment, ça vous a donné d'ailleurs ce son que vous avez fini par enregistrer, vous l'avez enregistré bien après, c'est-à-dire que après l'avoir entendu et un petit peu avoir été intrigué lorsque vous étiez enfant, vous avez réussi à le capter bien après.
Exactement, 30 ou 35 ans après, voilà, ouais. Et je rêvais de retomber sur ce son. Et pour l'anecdote, ce son que vous convient d'entendre, j'ai enregistré dans mon studio où je travaille, coup de chance, je revenais du terrain,
ouais.
J'étais en train de ranger mes affaires dans le calme. Et j'entends ce bruit, il y a à peu près, c'était
il
y a 3 ans.
Après,
je l'ai reconnu tout de suite, ouais. Ça c'est marrant. Et donc j'ai pu l'enregistrer dans mon studio où je travaille.
C'est la vrillette qui est revenue à vous.
Exactement.
Alors, une autre, alors ça n'est pas un insecte, mais une petite bête aussi, et que vous nous faites entendre comme jamais on ne l'a entendu. Alors évidemment, il nous faut le décodeur.
Mais oui.
Qu'est-ce qu'on entend là?
Alors là, on entend des percussions, et alors là, un petit cri. Et on a entendu donc des percussions. Voilà, exactement ça. Donc ce sont des percussions d'araignée.
C'est une araignée qui tambourine.
C'est une araignée qui tambourine. Donc là, c'était vraiment une découverte. Parce que ce son-là n'était pas connu en France. Moi, je suis tombé dessus. Alors là, vraiment par hasard, j'allais enregistrer autre chose.
Ouais.
Des grèbes castagneux. J'étais à l'écoute, près d'une petite mare.
Vous pouvez juste nous préciser ce que c'est que des grès castagneux?
Ah, c'est des petits oiseaux d'eau.
Ah, d'accord.
Qui ressemblent un petit peu à des poules d'eau qui vivent, et qui ont un chant très, très drôle. Et voilà, c'est ce que je voulais enregistrer. Donc j'étais à l'écoute, j'étais en repérage, hein, parce que je fais aussi beaucoup de repérage pour pouvoir enregistrer. Il faut repérer les heures, les déplacements, etc. Et il y avait un petit peu de vent et j'entendais ce petit bruit-là, très régulier. Je pensais que c'était le vent, puis au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas le vent, c'est trop rythmé. C'est un animal. Donc je me suis mis à quatre pattes à chercher, puisque ça venait du sol.
Oui.
Il y avait plein d'araignées, mais forcément, ça pouvait pas être ça. Jusqu'à ce que je vois une araignée devant moi sortir. Et donc elle utilise son abdomen, hein. C'est une petite araignée, une lycose, qui fait 4-5 mm de diamètre. Et elle va faire vibrer son abdomen sur des objets un petit peu durs, soit une feuille sèche, soit une petite brindille. Et toujours pareil, comme le pic, comme la vrillette, des percussions.
Alors on a d'autres sons incroyables, je ne pensais pas, il va falloir que vous m'expliquiez comment on peut enregistrer ça, le son de la photosynthèse. Qu'est-ce que vous avez réellement enregistré là?
Alors en fait là, il faut préciser que c'est en subaquatique, c'est-à-dire qu'on utilise un hydrophone, un micro que l'on immerge, pour aller enregistrer des insectes, des poissons, puisqu'il y a beaucoup de choses qui produisent des sons sous l'eau. Et je suis tombé sur beaucoup de sons comme ça, très étranges, très intrigants. Donc j'ai prélevé. J'ai prélevé des plantes, des choses dans des bocaux pour essayer d'identifier qui faisait quoi. Et là, je me suis aperçu que c'était il y a une quinzaine d'années, qu'en fait, il n'y avait pas du tout d'animaux, mais c'était les plantes qui libèrent des micro-bulles d'air, comme dans un verre de champagne finalement. Et c'est le contact de ces bulles d'air, le contact avec le micro, qui produit ce son. Alors et pour l'anecdote, depuis, il y a des musiciens qui utilisent ce type de son, qui vont essayer de capter ce genre de son, parce que ça ressemble un peu à de la musique électro. Hein. Oui. Il y a des rythmes, il y a des variantes comme ça très étonnantes, et qui font des compositions sonores avec ce type de son.
Alors vous n'enregistrez pas seulement le vivant, la nature c'est bien plus vaste. Un son pourtant très organique, on a l'impression de pulsation avec un fluide qui bat. Qu'est-ce qu'on entend là ?
Organique ou intersidéral ?
Un peu aussi.
Un peu aussi. Donc là, ce sont des sons de lacs gelés dans le Jura.
C'est la glace qui fait
c'est
ce bruit-là.
C'est la glace qui fait ce bruit-là. Mais c'est vraiment ce qu'on entend à l'oreille, en surface. Donc là, on est au bord du lac. Là, je suis même sur la glace, je suis au-dessus du lac. Et c'est toute la masse de glace qui résonne, en fait. Hein. Au moment où le soleil vient chauffer le lac, qui est entièrement pris par la glace va se dilater. Et ce sont ces craquements, ces fissures qui vont résonner comme une toile tendue, qui vont produire une musique.
C'est vrai que parfois c'est moins harmonieux et plus rugueux. Hein.
Alors là, on est sous l'eau. Là justement, on revient avec l'hydrophone, c'est ce qui se passe sous l'eau. On n'a plus la résonance dans l'air, mais on comprend et on entend tous ces craquements en permanence produits par la glace et le soleil. Et là, on revient en surface. In the place of power they sit, from religion to politics, they're riding the wave of fear, starting fires they don't care, making enemies out of friends, killing thousands, hundreds and tens.
Marley dans le temps d'un bivouac avec Sidem Fake Leaders.
Quelle sorte d'oiseau êtes-vous ?
Je suis un moineau, elle c'est une colombe.
Non, j'ai dit. Quelle sorte d'oiseau êtes-vous ?
Je suis un corbeau.
Nous poursuivons notre balade sonore avec Jean Boucaud et Johnny Rass. Ils se définissent comme chanteurs d'oiseaux, un métier qu'ils ont façonné du bout des lèvres et qui les a fait s'envoler jusque dans les salles de concert. Mais quand ils ne sont pas sur scène, ils continuent de converser avec les oiseaux puisqu'à force de les écouter et de les imiter, ils ont appris leur langage.
T'entends la réponse là-bas ? Alors en fait, c'est juste des signaux. Dès qu'un émet un son, les autres disent « la troupe est là ».
Donc là, c'est « je suis un ultriépi » et c'est les autres ils disent « ouais, nous aussi ».
Nous aussi, on est là.
D'accord.
Rejoins-nous.
Nous étions en baie de Somme, un endroit que vous connaissez bien tous les deux, Jean Boucaud et Johnny Rass. Là, l'émission, c'était un extrait de l'émission Échappée Belle en 2014. C'était vous, Jean Boucaud, qui discutiez. Quel est le nom de cet oiseau avec lequel vous discutiez ?
Ah, c'est l'huîtriépi. Ouais. C'est un oiseau, un petit échassier noir et blanc qui mange des coquillages dans le sable de la baie de Somme. Et ils ont vraiment, c'est hyper bavard. C'est tout le temps en train de chanter, tout le temps en train de signaler à son voisin où est-ce qu'il est. Et toujours en train de lui dire que là où il est, c'est mieux que là où est l'autre. Et donc, en fonction de ce qu'il trouve à manger, il va accélérer le rythme de son chant. Et l'autre vient voir ce qui se passe. Et ils sont toujours en train de se mélanger comme ça, de faire des grands vols pour changer de banc de sable en banc de sable lorsque la mer découvre les bancs. Et c'est vraiment... C'est celui qui fait l'espèce de rideau au loin de la baie de Somme.
D'accord. Alors décrivez-nous cette baie de Somme, qui est un endroit vraiment beau, qu'on ne connaît pas forcément quand on n'habite pas dans la région. À quoi ça ressemble, la baie de Somme ?
Alors, la baie de Somme, c'est un estuaire.
Ouais.
C'est là où le fleuve Somme va se jeter dans la mer. Et donc, c'est le partage, le mélange des eaux, hein, des eaux douces et des eaux salées. Et aussi l'effet des marées, donc des bancs de sable qui vont se découvrir et se recouvrir. Mmh. Et c'est stratégique sur la migration des oiseaux, puisque c'est exactement placé à mi-distance entre le Grand Nord, le cercle polaire et l'Afrique. Et quasiment tous les oiseaux du Grand Nord doivent passer au-dessus de la baie de Somme dans leur voyage.
Ouais. C'est un peu le hub des voyageurs, des oiseaux, c'est par là qu'on passe. Donc même quand on n'est pas soi-même un grand voyageur, si on vient là, on va voir passer des grands voyageurs.
C'est exactement ça. Le fait d'avoir les yeux en l'air et les oreilles aux aguets, vous voyagez avec les oiseaux. Ouais. Alors on les voit quelques secondes en octobre lorsqu'ils descendent vers le sud, et quelques secondes au mois de mars, lorsqu'ils remontent vers le Grand Nord. Ouais. Mais vous avez voyagé avec eux. Vous êtes avec des oiseaux qui sont partis quasiment il y a 5000 km et qui en ont encore 5000 à faire.
Ouais.
C'est le simple fait de les regarder, vous voyagez avec eux.
Ouais. Quel genre d'oiseaux, alors, on peut trouver en baie de Somme ?
J'ai envie de dire quel genre d'écosystème on a en baie de Somme. Parce qu'en fait, on retrouve beaucoup d'oiseaux. Des oiseaux d'une part qui sont dans les bocages un peu plus loin, d'autre part dans les marais, donc qui sont des rossignols, des fauvettes aquatiques, et encore plus devant, vers la mer, sur les bancs de sable, des limicoles. Donc on retrouve un peu toutes les sphères des oiseaux qui existent, en tout cas dans le patrimoine européen.
Ouais. Hormis les oiseaux montagnards, on a quasiment tout.
Ouais. Ouais, ouais. C'est vraiment le paradis des ornithologues, cette baie de Somme.
Alors c'est un des paradis, la France est stratégiquement bien placée pour les oiseaux migrateurs. Mais globalement, le monde est un paradis pour les oiseaux encore actuellement. Il faut chaque petit coin, chaque petite île recèle de petits joyaux, de petits trésors.
Et même à Paris. Même à Paris, on peut retrouver des merles, des grives. Enfin, si on tend l'oreille et qu'on fait abstraction du bruit ambiant, on peut entendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oiseaux. Même dans les parcs, il y a énormément d'oiseaux à Paris.
Alors vous, c'est vraiment justement dans cette baie de Somme que vous avez grandi, dans un village à proximité. Et c'est là que vous êtes venu. C'est au départ, c'est un don, c'est une passion, c'est une tradition locale. Comment on devient, avant d'être chanteur d'oiseaux, vous vous êtes amusé à les imiter, ces oiseaux. Comment on joue à ça quand on a 5, 6 ans, 7 ans ?
Alors, il y a deux démarches. C'est drôle parce que c'est pas du tout la même, que ce soit pour moi ou pour Jean.
Ouais.
Jean est vraiment une démarche de... J'allais dire, il est parti en quête. C'est-à-dire qu'il est parti dans les champs un jour et il a trouvé des goélands qui passaient au-dessus de lui, qui revenaient vers la mer. Il a poussé un cri. Les goélands ont fait demi-tour, ils se sont posés devant lui. Et là, il avait trouvé son oiseau totem quelque part.
Ouais.
Donc, il a poussé un cri d'enfant. Et ce cri d'enfant, c'était un chant d'oiseau.
Ouais.
Alors, Jean est venu après, parce qu'il connaissait mon père, qui, lui, savait imiter les oiseaux. Donc, il est venu chez moi. Mon père lui a appris un peu les chants d'oiseaux. Et quelque part, moi, j'étais chez moi en train d'écouter Jean, en train d'écouter un pédagogue qui lui apprenait. J'étais petit, j'avais 2 ans de moins que lui.
Mmh.
Et c'est par cet intermédiaire-là que j'ai appris le chant d'oiseau. Donc, il y a eu quelqu'un qui est parti en quête, et l'autre qui est resté chez lui pour apprendre. Donc c'est vraiment deux démarches différentes. Moi j'ai écouté mon père qui apprenait à quelqu'un d'autre et qui ensuite m'a inculqué quelque chose. Et Jean est vraiment parti en quête.
Mais vous, Johnny Rass, vous avez quand même aussi eu assez tôt des expériences assez marquantes avec des oiseaux, je crois, une 150 oies sauvages. Racontez-nous ça.
Ça, c'était, bah, c'est un peu comme Nils Holgersson. J'avais envie de partir avec les oies et j'étais un peu plus, enfin, j'avais 12 ans et j'étais en bas de chez moi et du coup, je me baladais dans la nature parce que c'est aussi la génération des cabanes. On dit toujours ça, mais c'était vraiment le temps où on allait dans la nature, on se promenait, on faisait des cabanes, on était vraiment connecté à la nature, et un soir d'hiver est passé des oies, et du coup je les ai entendus, je les voyais pas, et je les ai imités, et j'entendais le son de plus en plus fort, de plus en plus presque oppressant. Je me dis, c'est pas possible, il y en a combien? Et je les ai jamais vus. Et soudain, tout est tombé devant moi dans une pâture inondée, il y avait 150 oies devant moi, et comme j'avais 8 ans, donc je suis parti le poing levé, j'ai dit à l'attaque, et je me suis pas envolé avec eux, mais quelque part il m'en reste un peu des ailes de ces oies.
Je précise que c'est une émission très reposante pour la technique, parce que tous les bruitages qu'on entend pendant cette émission, quand il y en a un qui parle, c'est l'autre qui les fait avec la bouche, donc c'est très pratique. Bon, la régie n'est pas complètement d'accord avec cette version, mais jusqu'à maintenant oui, ils me disent qu'ils sursautent en régie parce qu'ils ne savent pas d'où viennent ces sons, vous les perturbez. Non, mais continuez, vous avez bien raison. Et alors, vous disiez pour vous, c'est le goéland, votre animal, oui. votre oiseau.
Mon premier oiseau. Ouais. C'est lui.
Incroyable.
Incroyable. C'est le goéland argenté, donc c'est une espèce qui voit ses effectifs plutôt augmenté, c'est une espèce qui se porte bien et qui va dans les terres la journée et qui le soir rentre sur la baie de Somme pour aller dormir sur les bancs de sable, justement pour être protégé des prédateurs.
Et vous, alors, quel est Johnny votre oiseau fétiche?
Alors mon oiseau fétiche, c'est l'oiseau, le premier oiseau que j'ai imité aussi, et c'est un peu l'oiseau que mon père imitait, du coup c'est le premier oiseau que j'ai entendu, et c'est le merle noir.
C'était le chant du mâle, le ramage, le chant de parade. Et les deuxièmes parties, ce sont des cris de contact que le mâle émet auprès de la femelle ou auprès des jeunes ou même auprès de tous les autres individus pour se réunir en dortoir, pour dormir ensemble. Ils sont une quinzaine à dormir dans le même arbre. Et ça, c'est un cri de fuite. Ça, c'est quand il est un peu apeuré. Il dit à tout le monde, je m'en vais, il y a trop de danger.
Il fait le mouvement quand il fait ça. Le bruit de fuite avec la tête. il incarne son oiseau. Alors, c'est assez mystérieux parce que vous placez les mains devant la bouche quand vous faites vos sifflements. Donc, ça ressemble évidemment très, très précisément à l'oiseau, mais on voit pas du tout comment vous procédez avec la bouche derrière. On sait pas comment ça se passe.
Alors, tout ça, c'est des techniques qu'on a appris quand on était petit, qu'on a essayé. Enfin, vraiment, c'est du tâtonnement. Hein. Ouais. C'est par expérience. On essaie, on trouve, sans pire. Et d'un coup on a une technique, mais après on s'est aperçu que c'était parce qu'on essayait d'imiter la fameuse syrinx, l'organe vocal des oiseaux, qui est une petite flûte qu'on trouve dans le corps de l'oiseau et qui possède deux cavités. Et du coup on utilisait les doigts pour faire une première cavité avec la bouche et la deuxième main donc pour faire la deuxième cavité, d'où ces illusions un peu sonores, qui sont des sons diphoniques.
Oui.
C'est pour avoir deux sons en même temps, c'est pour avoir des respirations circulaires, c'est pour obtenir tout ça.
Mais... C'est-à-dire que vous avez instinctivement recréé l'organe phonique, je ne sais pas si on l'appelle comme ça, de l'oiseau.
Tout à fait, tout à fait.
Les hommes parlent comme les oiseaux. Sur l'île de la Gomera, on entend El Silbo en écho. Entre deux montagnes amarrées aux nuages, un guanché siffle pour s'inviter à dîner. Au menu, un mojo piquant qui monte aux yeux, et à nouveau un sifflement pour se dire trappe ahutée, le pied agile, les jambes arquées. On ne le distingue dans l'argile que par le son de son sifflet. La lucha canaria, pour protéger son île, El Silbo, pour braver la guardia civile. Siffle aussi le plus beau chant du plus bel oiseau, c'est le Silbo Romero. C'est le Silbo Romero. La Wawa escalade les jardins en escalier. Sur le volcan de la balade, El Silbo perce la fumée.
Silbo de Féloche, la programmation musicale du temps d'un bivouac, est signée Djoubaka.
Pourquoi ça chante un oiseau ?
Pour attirer les femelles en colibri.
Ah, là, c'est le côté.
C'est le charmeur.
C'est le charmeur.
Donc d'accord.
Donc en fait, les garçons, ils sont en compétition pour trouver une femelle. Donc en fait, la femelle va avoir le choix et elle choisira celui qui chante le mieux. Autre, pourquoi est-ce qu'un oiseau siffle ou chante ?
Pour
faire peur ?
Pour faire peur ?
Pas mal. Effectivement, tu as déjà vu, peut-être vu un cygne ou une oie, quand elle est attaquée, elle fait... C'est comme un serpent.
Pour se défendre.
Pour se défendre. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme autre possibilité ? Pourquoi un oiseau
siffle ? On l'a dit tout à l'heure d'ailleurs avec le rouge-gorge. C'est une troisième possibilité, ça.
Pour marquer le territoire.
Très bien.
C'est un extrait du film Chanteur d'oiseaux de Maurice Dubroca, dont on utilise plusieurs extraits pour illustrer cette émission. Très joli film, je vous le recommande si vous avez l'occasion de le voir ou de le commander en DVD, dans lequel on vous entend donc dans ce film, Johnny Rass et Jean Boucaud, avec un groupe d'enfants. Vous les passionnez avec vos histoires, vous êtes en pleine campagne évidemment, et vous leur apprenez à décrypter le chant des oiseaux. Ils ont l'air complètement conquis, ces enfants.
Alors, c'était pas n'importe quels enfants, c'était les enfants qui étaient dans l'école primaire où on était il y a 30 ans.
Ah oui.
Donc on a pris la même classe que dans laquelle nous on a commencé, on a pris ces mêmes élèves 30 ans après, et on les a emmenés au même endroit où nous on allait faire l'école buissonnière, où on allait juste après la sortie des cours siffler les oiseaux. Et donc c'est vraiment c'est passionnant parce que voilà, on voit les rapports qui sont un peu les mêmes rapports. Tout de suite, c'est du jeu, tout de suite il y a du bonheur d'écouter les chants, de comprendre. Et c'est ça que je veux, moi je trouve que voilà, il faudrait presque offrir aux enfants. Peut-être si vous mettez une tablette, c'est un peu la mode, on offre ça pour les... Mais il faut aussi offrir une petite paire de jumelles. Je pense que c'est indispensable d'aller dans la nature et d'aller écouter les oiseaux ou d'aller les voir de plus près. Ça les rend heureux, on le sent tout de suite.
Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils se racontent, ces oiseaux que vous avez appris à écouter, à imiter, et évidemment vous avez un peu décrypté aussi le langage des oiseaux.
Ils se racontent plein de choses. La première chose qu'ils se racontent, c'est d'abord, t'es où ? La première chose quand vous êtes tout seul, c'est « t'es où ?». Donc, c'est des petits cris de contact. Si vous vous promenez dans la nature, vous donnez toujours des petits sons. C'est à peine audible, mais c'est juste pour retrouver son partenaire. Ouais. Ou retrouver ses enfants, ou retrouver ses jeunes, ou retrouver sa petite troupe. Ça, c'est les cris de contact.
Ouais.
Après, une fois que, c'est les cris lorsqu'ils sont en migration. Une fois qu'après, le mâle s'est installé sur un territoire, qu'il a défini un territoire, défini un lieu sur lequel il serait susceptible d'accueillir une femelle et d'élever ses jeunes, là, il va faire un cri à la fois de défense de territoire et un ramage de séduction. Alors, en règle générale, cette phrase, ça fait un peu des deux. Les deux sont mixés. À la fois, ce qui peut séduire peut faire peur aux autres. C'est pas mal, hein. C'est très mélodieux. C'est plutôt très joli. Mmh. Alors, dans le cas d'une fouette à tête noire, par exemple, dans le cas d'une alouette, dans le cas d'un merle noir ou d'un rossignol. Mmh. Et dans cette strophe, il y a une partie qui est propre à son espèce, à sa race. Enfin, ça va, voilà, si c'est un merle, c'est un chant de merle. Et dedans, il y a une petite séquence qui est à lui, qu'il invente, qui est sa marque de fabrique à lui, qui est votre accent à vous, votre façon de parler. On vous reconnaît, monsieur Fievé, partout en France aujourd'hui. On sait que c'est vous. Et ben, sa marque personnelle de l'oiseau.
Une petite identité. Alors vous, quand vous dialoguez avec ces oiseaux, vous créez aussi votre petite identité. Vous avez aussi votre petite marque personnelle que vous créez pour vous faire accepter comme, en tant qu'individu parmi ces oiseaux.
Alors nous, on a, par rapport à ça, dès qu'on imite un oiseau sur son territoire, on est comme on est une imitation. Et comme on n'a pas les mêmes fréquences, on est toujours en dessous de l'oiseau.
Ouais.
C'est vraiment quelque chose, et du coup, ça renforce quelque part l'oiseau. Donc l'oiseau est interloqué, il se dit, il y a une autre fauvette dans mon territoire, je vais aller voir, d'où son rapport et son contact avec nous, et la fauvette va monter. C'est-à-dire qu'elle va trouver une acoustique la meilleure possible pour pouvoir exprimer son chant. Et là, elle a remporté la mise. Mais notamment parce qu'elle va rajouter des strophes et parce que nous, on est aussi en dessous. Et elle sait très bien qu'on est un peu en dessous. Donc, quelque part, on renforce vraiment, vraiment les couples. Et on renforce les chanteurs, en fait.
Là, il parle en interaction avec un autre mâle.
Ouais.
C'est-à-dire que si on imite un mâle, l'autre mâle qui est sur le territoire ou sur lequel on est, peut-être son territoire, là, il va devoir, pour ne pas se battre, montrer qu'il est présent. Et pour montrer qu'il est présent, il va chanter plus fort que nous. Donc, c'est ça tout le jeu. C'est qu'il faut toujours être en dessous de lui pour ne pas le dominer.
D'accord, oui, il faut que vous arriviez un peu en position de soumis, sinon l'oiseau va s'enfuir et c'est perdu.
C'est perdu. Donc,
ouais. Et est-ce qu'il est aussi possible que vous appreniez, parce que il y a une phase d'imitation un peu, je crois que c'est avec, je sais plus avec quel oiseau, peut-être le merle, peut-être que je dis une bêtise, où il y a des strophes, à force de dialoguer avec eux, ils se mettent eux aussi à vous imiter, un peu comme si vous intégriez vos propres mélodies dans leur chant à eux.
Bien sûr, mais notamment chez les étourneaux ou même chez les grives. On a même remarqué quelquefois que des grives dans les villes chantaient d'une part plus fort et d'autre part avaient aussi absorbé des sons de la ville. Donc la grive, elle va imiter sa gamme de sons habituelle et d'un coup va déclencher une sirène ou une alarme dans son chant qu'elle a entendu toute la journée.
Ah,
donc oui. On a aussi ce pouvoir de pouvoir inculquer une phrase. Et c'est aussi notamment le principe de la srinette.
Oui. Alors, la srinette, c'est un objet qui existait il y a 2 siècles, pour apprendre aux oiseaux siffleurs des mélodies humaines. Alors, c'était un petit peu dans l'histoire de Papageno. On attrapait les oiseaux, les oiseleurs attrapaient des oiseaux, et ces oiseaux étaient soumis à la torture de la srinette. On leur faisait passer 3 heures par jour des morceaux de l'époque, des Malbrousse en va en guerre, des bergères et tout. Et l'oiseau apprenait cette chanson et on offrait ces oiseaux siffleurs aux belles dames à l'époque.
Incroyable. Je viens de comprendre, du coup, l'étymologie du mot seriner. Ça doit venir de la serinette.
Ça vient de la vraie.
Parce qu'effectivement, on les serinait, ces oiseaux. Alors, vous avez voyagé aussi pour aller écouter des oiseaux un peu plus loin que dans la baie de Somme. Est-ce que vous avez effectué des voyages un peu plus lointains?
Alors, on a la chance de voyager par notre métier et puis aussi par passion. C'est énorme. Pour voir tous les zoos du monde, c'est quasiment impossible. Il y a 10 000 espèces. C'est une quête presque infinie. Évidemment, on a fait quelques voyages dans les lieux emblématiques. On a fait le Nord-Amérique, l'Afrique, l'Asie. Mais c'est presque rien par rapport au domaine des oiseaux.
Ouais. Voilà, quand on part en quête de nouveaux chants, comment ça se passe? Ça dure des heures. Dès que vous repérez un oiseau, pour pas l'effrayer, pour entendre son chant, vous vous faites discret, vous écoutez, vous commencez à essayer d'imiter. Voilà, comment vous procédez?
Dès qu'on entend un oiseau, on sait maintenant, par expérience, si on est capable de l'imiter.
Ah oui?
Parce qu'on se connaît très très bien, je pense. C'est comme un chanteur qui aurait travaillé sa voix et qui sait qu'il est dans une gamme de baryton, de ténor. Il sait que c'est sa gamme ou pas. Donc, dès qu'on entend un oiseau, on sait si c'est possible. C'est plutôt rassurant d'ailleurs, parce que quand on arrive sur un territoire, on est capable de rentrer en connexion totale avec la nature et tout de suite. Donc il y a quelque chose de très rassurant. C'est des sons qu'on connaît pas, mais en même temps qu'on apprivoise très vite. Donc je pense notamment au Japon. Dès qu'on arrive au Japon, on a pu rentrer en connexion avec l'oguizu, le rossignol japonais. L'oguizu, qui est un...
Ça, c'est un oiseau
rossignol japonais, et vous faites ça à un japonais, c'est son oiseau emblématique.
Ouais.
C'est tous les mangas, tous les films, dès qu'on parle du printemps, dès qu'on parle du bonheur, la bande son, c'est un oguizu.
Et c'est magnifique parce que ça touche notamment les enfants, enfin jusque 77 ans, quoi. Ouais. C'est incroyable, ça touche toutes les générations.
C'est-à-dire que finalement, j'imagine que vous ne parlez pas japonais, mais finalement, par ce biais-là, vous avez dû créer des moments de complicité avec les japonais assez...
J'allais dire, c'est pire encore, c'est un japonais qui nous l'a appris sans parler un mot de français.
Ouais.
On lui a demandé, enfin par traduction, on lui a demandé quel était l'oiseau symbole. Tout de suite, nous, on pensait aux grues. Ouais. On lui avait fait la grue, il a dit, mais non, personne connaît au Japon le son de la grue. Donc voilà, c'est un oiseau symbolique, mais on connaît pas le son. Et il a dit, par contre, l'oiseau que tout le monde connaît, c'est le guizou. Et il nous a expliqué par onomatopée. Ouais. Et du coup, elle nous faisait... et c'est vraiment des onomatopées. On a tout de suite imité l'oiseau. Et quand on l'a fait, elle est tombée à la renverse parce que c'était vraiment le son du rossignol japonais.
Ah, on aimerait savoir parler comme vous le langage des oiseaux. Alors, je ne sais pas s'il est trop tard, si ça s'apprend. En tout cas, vous, vous essayez d'initier quelques enfants au langage des oiseaux.
Par contre, il faut toujours écouter les oiseaux. Avoir en mémoire le chant. Et la tourterelle, c'est tout, tout, tout. C'est... Ou avec cette technique. Ça marche tout autant. Alors vous choisissez.
Ouais, c'est pas mal.
C'est
hein.
pas mal. C'est un peu aigu, c'est un peu aigu. Il faudrait défendre un peu.
Bon, alors maintenant que vous êtes des super imitateurs de chants d'oiseaux, on va essayer d'en appeler d'autres.
On va essayer d'en appeler d'autres. Est-ce que c'est facile d'apprendre? Alors là, ce sont des enfants. Bon, déjà, ils sont, voilà, ils sont partants, ils sont désinhibés. Est-ce que des adultes qui n'ont jamais essayé d'imiter les oiseaux ont une chance d'y arriver?
Alors, c'est drôle que vous dites c'est des enfants, parce que je pense que c'est vraiment la réponse. En fait, pour imiter un chant d'oiseau, je pense qu'il faut retourner en enfance. Le truc étrange, c'est que quand on imite un oiseau devant un adulte, il recule de 3 mètres et il se dit c'est impressionnant. Lorsqu'on le fait face à un enfant, il avance de 3 mètres et il essaie de le faire. C'est la grande différence. Il est ouvert et il essaie de le faire. Donc il pousse un cri et d'un coup il découvre qu'il a un oiseau en lui, un totem. Comme nous on a pu le faire. Dans la nature, à un moment donné on a poussé un cri et c'était notre oiseau. Après on s'est construit dessus. Donc on a cherché d'autres oiseaux qui ressemblaient à cet oiseau. Puis après on a été chercher d'autres techniques. Mais j'ai envie de dire, tout adulte qui a encore son esprit d'enfant peut imiter un jour un oiseau.
Vous pensiez au départ que ça deviendrait votre métier, chanteur d'oiseaux. Quelles études vous avez fait l'un et l'autre?
Alors moi j'ai fait ingénieur en agroalimentaire et Jean a fait des études de pharmacie.
D'accord, donc au départ, même si c'était un jeu quand vous étiez petit, vous imaginiez pas que ça prendrait ces proportions dans vos vies?
Jamais.
Jamais.
C'était pas imaginable. C'est vrai qu'il faut aussi rassurer les parents, la famille, il faut faire des études
correctes. Papa, maman, je veux devenir chanteur d'oiseaux.
Voilà. Oui. C'est ça. Mais l'avantage, c'est que quand on a une passion, elle est toujours là. On peut pas l'éteindre et la flamme était là. Et le temps des études, c'était aussi le temps d'apprendre à plein de choses. On apprend aussi d'autres choses. On a une culture générale. On a une culture de base scientifique, mais aussi un petit peu littéraire. Et ça nous a permis aussi de grandir et d'être, à mon avis, avec une vision assez globale. Mmh. Et de pas prendre que le champ pour ce que c'est, mais aussi comprendre la biologie de l'espèce, comprendre des comportements.
Avoir une démarche universitaire aussi par rapport à tout ça. Mmh.
C'est-à-dire avoir une démarche universitaire?
Bah, pouvoir aller puiser dans les livres scientifiques ou lire des thèses pour pouvoir partir de la source même du scientifique ou de l'ornithologie, qui est une science quand même dure, pour pouvoir atteindre l'artistique. C'est toute la magie de ce qu'on fait, je crois.
Super hippopète, l'oiseau s'est envolé.
Merci à Anne-Sophie Ladonne qui a réalisé cette émission. Juste après le flash, vous allez découvrir la nouvelle série de reportages d'Anne Pastor. Bonjour Anne.
Bonjour Daniel.
Cet été, tous les vendredis à 17h, vous nous emmènerez en terre indigène. C'est la 4e année que vous nous emmenez en terre indigène.
Effectivement, depuis 4 ans, vous entendez la voix de ces peuples qui finalement ont une autre manière d'être, d'agir, de penser le monde. Ils sont plus de 380 millions de personnes et pourtant, leur parole n'est pas du tout entendue. Alors, depuis 2007 et la charte qui a été signée à l'ONU du droit des peuples autochtones, des voix s'élèvent et ils s'invitent depuis 4 ans sur France Inter, d'autant qu'ils témoignent d'une richesse unique.
Et alors, cette année, c'est une histoire oubliée des peuples francophones que vous allez nous raconter.
Amérindiens du Québec, Berbères du Maroc, Peuls du Sahel ou Pygmées d'Afrique centrale, c'est vrai que ces peuples, un temps colonisés, parlent notre langue, ils partagent une partie de notre histoire et pourtant, ils sont les grands oubliés de la francophonie. Alors on va découvrir plein d'histoires, plein de peuples.
Et pour ce premier épisode, où est-ce qu'on va? Qui on rencontre?
Premier épisode, au pays des fantasmes. Et c'est vrai que rien qu'à l'énoncé de certains noms de peuples, Touareg, Peuls, Pygmées, il y a tout notre imaginaire qui se réveille, alors souvent aussi nourri de fascination et de répulsion. Et puis il y a certains peuples qui remportent la palme, comme les Pygmées. Alors, dès le 19e siècle, vous savez, dans les zoos humains, dans les expéditions coloniales, ils s'offraient en spectacle. Alors on se dit, c'est terminé cette histoire? Eh bien non. Pas tout à fait. D'abord en 2002 en Belgique, une réplique des zoos humains. Et puis surtout aujourd'hui, ce sont les touristes en mal d'exotisme qui partent au Cameroun rencontrer ces pygmées comme des bêtes de foire. On entend encore là-bas dire que les pygmées sont le chaînon manquant entre l'homme et l'animal. C'est donc un voyage entre la Belgique et le Cameroun, d'hier à aujourd'hui, au pays des fantasmes.
On embarque avec vous dans un instant, Anne Pastor.